fait digne d'intérêt, d'attention, c'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand un prolétaire ou quand un polytechnicien devient saint-simonien. Donc, c'est ce moment-là, si vous voulez, qui m'intéresse et que j'appelle la conversion utopique. Alors, je précise tout de suite que le vocable retenu ne doit pas faire illusion. Il ne s'agit nullement d'entendre le terme conversion au sens religieux et de reprendre à notre compte l'interprétation de l'éditeur catholique de l'utopie de Thomas More. Estimant que la fonction essentielle du livre de More est la fonction maïeutique, André Prévost s'emploie à montrer que l'utopie est l'instrument d'une véritable métanoïa, d'une métamorphose de l'âme, se détournant du monde et de la cité terrestre pour se tourner vers Dieu et la cité céleste. Donc si conversion il y a, ce mouvement ne peut être qu'une conversion à l'utopie. La conversion utopique signifie et ne peut signifier d'abord que la conversion à l'utopie même, et non à ses thèmes ou à ses contenus. Entendons un complexe d'impulsion, d'attitude, voire de posture propre à l'utopie. Manifestation de l'héroïsme de l'esprit humain au sens de Vico, c'est-à-dire l'exercice de l'imagination. L'utopie est une disposition qui, grâce à un exercice de l'imagination, ne redoute pas, dans une société donnée, d'en transcender les limites et de concevoir ce qui est différent, ce que j'appellerai, à la suite de Lévinas, le tout autre social. Alors pourquoi avoir choisi le terme de conversion? Qu'il s'agisse de la philosophie ou de l'utopie, il a le mérite d'attirer l'attention sur un mouvement, sur un processus dynamique. Dans le cas de l'utopie, le mouvement par lequel l'homme ou le collectif se détourne de l'ordre existant pour se tourner vers un monde nouveau, vers l'expression imaginative d'un monde nouveau, selon les termes de Marx, quand il parlait avec admiration de Charles Fourier ou de Robert Owen. Or, ce mouvement, ce déplacement d'un pôle vers un autre, d'une utopie vers une utopie, pour reprendre les termes de Gustav Landauer dans La Révolution, entraîne aussitôt un virage qui se manifeste par la désaffection pour l'ordre existant et l'apparition d'un nouvel investissement pour la communauté différente à venir. La désaffection pour l'ordre immédiatement suivie de l'investissement d'une nouvelle forme de lien entre les hommes, du lien humain. Il n'est que de lire Charles Fourier, notamment le discours préliminaire à la théorie des quatre mouvements et des destinées générales, pour appréhender le tempo de la conversion. Cette dernière s'effectue en deux phases étroitement reliées, l'une à l'autre. D'abord, un moment philosophique, la reprise du doute cartésien, doute partiel, dit Fourier, et donc soumis à une extension radicale, au point de donner naissance à un doute absolu, appliqué à la civilisation, à sa nécessité, à son excellence et à sa permanence. Je cite, « Je résolus d'appliquer le doute aux opinions des uns et des autres, indistinctement, et de suspendre jusqu'aux dispositions qui avaient l'assentiment universel. » Puis, le moment propre, proprement utopique, en ce qu'il se déploie sous forme d'un mouvement d'écart, d'écart absolu. Je cite encore, « J'avais donc présumé que le plus sûr moyen d'arriver à des découvertes utiles, c'était de s'éloigner en tous sens des routes suivies par les sciences incertaines qui n'avaient jamais fait la moindre découverte utile au corps social. » D'où un changement de terrain et une rupture éclatante avec la philosophie politique qui consiste à substituer la question des mesures industrielles et domestiques à celle classique des rapports du trône et de l'autel. À suivre la méditation de Pierre Leroux, qui n'a cessé d'interroger la spécificité de l'utopie tout au cours de sa vie, plusieurs textes, lors de ce virage, c'est-à-dire de la désaffection et du nouvel investissement, l'utopiste ou le rêveur, c'est ainsi qu'il appelait les utopistes, par exemple Owen, le rêveur d'Angleterre, se métamorphose en homo novus, qui, sous l'emprise d'une révélation inédite, en rupture avec toutes les théories et les pratiques répertoriées, fait l'épreuve d'un décrochage et également d'un décollage. Aussi, l'idée de conversion utopique paraît-elle plus en mesure que tout autre de répondre à la question « Comment l'homme devient-il un animal utopique ? Comment naît, comment surgit ce que Levinas appelle l'humain utopique ?» Si l'on pose la question du « comment », n'est-on pas plutôt porté à explorer une constellation complexe faite de gestes, d'attitudes, d'affects, mais aussi d'élaborations philosophiques, qui va bien au-delà de la résistance ou du martyr, en ce qu'elle se constitue, à bien y regarder, même dans des problématiques distinctes, sous le signe de l'éveil ou du réveil. Il semblerait que dans un premier temps, en dépit des attaques de Fourier contre la corporation des philosophes, philosophie et utopie marchent de concert. Fourier, quand il invite à pratiquer le doute et l'écart absolu, pointe une cible propre aux lumières, le magma des préjugés qui forment les opinions convenues et représente le danger par excellence. Johann Fichte et Fourier se rejoignent quand l'un estime qu'il faut appliquer le doute cartésien au champ politique, à l'ensemble des idées morales et politiques, quand l'autre exige d'étendre le doute de Descartes à la civilisation de façon à suspecter sa légitimité. La philosophie, en l'occurrence celle de Fichte, n'explicite-t-elle pas une partie du mouvement qui suscite l'écart utopique et dont la possibilité de la conversion. Reprenons l'idée que nous avons été enfants avant que d'être hommes, Johann Fichte appelle à remettre en question notre vie quotidienne et l'ensemble des présuppositions qui la fondent à notre insu et ne sont que soumissions sans aucun examen préalable. Je cite « La seule autorité de nos pères et de nos maîtres nous fait admettre sans preuve comme principe certain, certaines propositions qui n'en sont pas. En entrant dans le monde, nous retrouvons nos prétentions, nos prétendus principes, chez tous les hommes avec lesquels nous sommes en rapport, parce que eux aussi les ont admis sur la foi de leurs parents et de leurs maîtres. De là l'appel à la critique et au rejet de ce qui se donne pour sagesse historique. Cette sagesse, ou cette prétendue sagesse dont se réclament les ennemis de la Révolution française, par exemple Burke, prétendent se fonder sur l'expérience passée. Pour ces derniers, l'histoire est la surveillante de tous les temps, l'institutrice des peuples, l'infaillible prophétesse de l'avenir. En précisant aussitôt que ce privilège accordé à l'histoire a pour conséquence désastreuse de réduire l'avenir au passé et le possible au réel. L'implicite de cette pensée de l'histoire, mobilisée pour nier la différence de l'avenir, est que tout doit rester tel qu'il est actuellement. À l'encontre de ce privilège de l'histoire et aussi de l'expérience, le philosophe s'emploie à faire apparaître et à faire valoir une forme originaire qui n'est autre que la liberté. La liberté posée, une philosophie de la liberté se faisant, deux orientations rigoureusement opposées se découvrent. Du côté de la sagesse historique et de ses partisans, il importe de valoriser l'imitation et la reproduction de ce qui a été et de ce qui est. Du côté de la philosophie de la liberté, retentit l'invite à la création de ce qui doit être autrement. C'est ici que Johann Fichte est proche de Saint-Just lorsque ce dernier déclare que désormais, selon la dynamique créatrice de la Révolution, l'héroïsme de la liberté, n'a pas de modèle. Donc, par exemple, l'idée du modèle antique est balayée dans cette déclaration. Donc, nous avons là affaire à une crise de l'imitation. Ce conflit entre imitation et création, loin de se limiter à des enjeux historiques ou esthétiques, revêt une dimension politique et plus encore existentielle. Aussi bien dans l'opposition de la création et de l'imitation se réfléchit le conflit radical que Fichte décèle à la racine de l'existence, au choix de la subjectivité pour la liberté qui s'accomplit dans la création de soi et dans l'idéalisme fondé sur l'autonomie du moi, s'oppose le choix de l'hétéronomie, de la servitude au non-moi et la réduction de la liberté subjective à un pouvoir de refléter les choses. De ce choix entre liberté et servitude découle une alternative déterminante pour la conversion utopique. L'homme sera ou bien espoir ou bien mémoire. Seule une subjectivité libre sera de taille à concevoir un principe espérance de nature à provoquer la conversion utopique. Infiniment plus redoutable que les parents et les maîtres, bien que ces derniers, par leur sagesse, en fassent partie et le confortent en permanence, est un maître quasi absolu, tant il semble, à tort, partager avec la mort l'inéluctabilité. L'ordre existant, ou plutôt l'ordre établi, qui dans son illusoire objectivité s'apparente au règne des choses, est ce maître d'une force écrasante qui s'impose à nous avec la puissance de ce qui est comme il est et pas autrement. Nul doute que cette emprise à la fois ordinaire et permanente ne façonne des subjectivités plus inclinées à l'acceptation et à la servitude qu'à la révolte et à la passion de la liberté. Nul doute que derrière cet établissement ne se cache une histoire souterraine, celle de la domestication des corps, celle du destin des instincts et des passions humaines refoulées, dénaturées par la civilisation. Celle que Nietzsche a dévoilée dans la généalogie de la morale, faite de terreur et de barbarie. Je cite, « La moralité des mœurs et la camisole de force sociale qui ont rendu l'homme vraiment calculable. N'est-ce pas de ce côté qu'il faut chercher la provenance de ces appels répétés au réalisme, à une politique réaliste, sorte d'idée fixe, hypnotisante, qui inaugure toujours ce qui a pour nom retour à la normale, ou certains retour à la politique normale. Cette emprise au visage indiscernable relève de ce que l'on pourrait appeler un dogmatisme pratique et un dogmatisme ontologique qui imprègne nos jours et nos nuits, enserre notre vie quotidienne, l'enferme dans des bornes qui ont l'apparence de l'infranchissable et dont il paraît inconcevable de s'évader. Pris dans cet ordre établi, aux bornes d'autant plus invisibles qu'elles semblent se confondre avec l'être même, l'idée d'en sortir paraît impensable, sinon par des actes taxés immédiatement de folie ou même de crime. Pour tenter de mesurer cet incommensurable, plus grave, plus destructeur que le dogmatisme issu des orthodoxies, tant il prend racine en profondeur, il convient de faire retour à l'étymologie grecque de dogma. Dogma signifie d'abord, essentiellement, ce qui paraît bon, ce qui convient, et donc ce qui va de soi. Tellement de soi que ça échappe à toute interrogation, à tout questionnement critique, car l'ordre tel qu'il est se pose, se situe, se produit et se reproduit en deçà de toute problématicité. Le problème, si problème il y a, est que cet ordre ne fait pas problème. Or, pointer ce dogmatisme froid de l'ordre établi, qui est comme il est et pas autrement, n'est-ce pas du même coup désigner ce sur quoi doit travailler la conversion utopique? Reprenons pour les expliciter au mieux les termes de Landauer dans La Révolution. La conversion utopique se détournent d'une utopie, c'est-à-dire d'un ordre établi, donc avec toutes les connotations qui s'y attachent, d'une conjonction d'un espace et d'un temps déterminé, pour se tourner vers l'utopie, un lieu de nulle part et un temps d'aucun temps, indéterminé. Désapprendre et se déprendre sont les deux mouvements de la conversion utopique. Comme si le mouvement de cette métanoïa était de parvenir à se déprendre de l'attachement à un ordre établi, donné, à un établissement pour investir non un nouvel ordre, mais grâce au suspens du temps et de l'espace, pour tenter l'expérimentation ouverte d'un nouvel être au monde et d'un nouvel être ensemble au monde, qui, loin de redouter les écarts, les passages ou les sauts, au-delà, inaugure un désordre nouveau, ou pour reprendre une belle expression des insurgés de l'an 3, un désordre fraternel, de nature à laisser fleurir invention, rêve et fantaisie, jusqu'à l'éclosion héroïque d'une vita nova. Écoutons Michelet, qui, à propos des fêtes de la Fédération de l'année 1790, découvre comme un mariage de l'utopie et de la révolution tous les traits d'une conversion utopique en temps de révolution. Je cite, « Le temps a péri, l'espace a péri, les deux conditions matérielles auxquelles la vie est soumise. Étrange vita nova qui commence pour la France, éminemment spirituelle, et qui fait de toute la révolution une sorte de rêve, tantôt ravissant et tantôt terrible. Elle a ignoré l'espace et le temps. » Alors, je ne peux pas revenir sur la lecture phénoménologique si aiguë que propose Marc Richir de la description de Michelet, mais je retiendrai seulement de cette analyse, comme moment possible de la conversion contemporaine de l'événement révolutionnaire, l'effondrement des repères symboliques qui étaient autant d'éléments constitutifs de l'ordre établi d'Ancien Régime. Je cite Marc Richir, « Tous les repères symboliques qui instituaient symboliquement le pays sont l'objet, après la tourmente, d'une véritable épopée phénoménologique. Dans ce suspens, puisque épopée veut dire suspens, dans ce suspens de la fête révolutionnaire, dans cette mise entre parenthèses d'un ordre de domination multiséculaire, naît une nouvelle expérience d'humanité. Diverses sont les armes de l'utopie, mais de loin plus important est de s'interroger sur le comment de la conversion utopique, de tenter de déterminer la méthode, ou plutôt les formes grâce auxquelles peut s'effectuer cette conversion, ce double mouvement de décrochage d'un ordre donné, d'un établissement, suivi aussitôt de la recherche d'un nouvel être au monde, par l'arrivée dans un monde nouveau. Quelles sont les voies qu'emprunte cette conversion? Comment rendre compte de cette métamorphose, de cette alchimie presque, de ce mouvement complexe qui à chaque fois vise à sortir d'un sommeil dogmatique et à connaître enfin l'éveil ou le réveil? Pour ma part, j'en distinguerai deux, l'épopée phénoménologique et l'image dialectique à l'aide de laquelle Walter Benjamin a pensé l'utopie. Donc d'abord, l'épopée. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pris ces deux points-là parce que depuis un certain temps, j'étais très étonné par la convergence à la fois et la différence entre Lévinas et Benjamin, qui tous les deux, l'un dit par exemple Lévinas qu'il est un philosophe qui n'a pas peur de l'utopie, et l'autre a consacré une grande partie de son travail à la lecture des utopies, et tous les deux, et c'est ça qui m'avait frappé, pense l'utopie sous le signe de l'éveil. Alors même si c'est par des voies différentes. Donc si vous voulez, c'est ça qui a commandé ma démarche et qui m'a intéressé. Donc quelque chose comme l'épopée phénoménologique n'était pas au cœur de la conversion utopique, ou plus exactement, pour y atteindre, ne convient-il pas de pratiquer quelque chose comme l'épopée, cette mise entre parenthèses du monde objectif? N'est-il pas légitime de percevoir dans la conversion utopique et dans sa mise entre parenthèses de l'ordre établi, de l'ordre social historique, un geste proche de celui de la phénoménologie, suspendant la thèse du monde? N'est-on pas alors fondé, jusqu'à un certain point, à décrire la conversion utopique en termes d'époquée, sinon à parler d'époquée utopique? En effet, la conversion utopique, en ce qu'elle procède à un suspens de l'ordre établi tel qu'il est, voire à un suspens de l'espace et du temps, se rapproche sensiblement de l'époquée phénoménologique, comme si l'utopie inventait à son tour une forme de réduction qui lui soit propre. Nul étonnement alors à ce que ce suspens de l'ordre établi tel qu'il est n'engage des effets comparables jusqu'à un certain point à ceux de la réduction phénoménologique tels qu'ils sont décrits par Lévinas dans un très beau texte de la philosophie et l'éveil. Il met en valeur la radicalité du geste husserlien. Il s'agit, selon lui, d'apporter une réplique à la dégénérescence du sens, à la pétrification du savoir, en regard de la pensée vivante, et Lévinas d'insister sur le caractère révolutionnaire de la réduction, en ayant recours, non sans intention, à un vocabulaire politique. Dans sa radicalité, le geste husserlien, semblable à celui des révolutionnaires, n'a-t-il pas pour viser de rendre la vie aux voix réduites au silence, refoulées par le savoir du monde? Je cite, « Et c'est la révolution de la réduction phénoménologique, révolution permanente. La réduction réanime ou réactive cette vie oubliée ou animée dans le savoir. Sous le repos en soi du réel, référé à lui-même dans l'identification, donc ça c'est une bonne définition de l'ordre établi. Sous la présence, la réduction lève une vie contre laquelle l'être thématisé aura déjà dans sa suffisance regimbé, ou qu'il aura refoulé en apparaissant. Des intentions assoupies sont réveillées à la vie, et rouvriront les horizons disparus, toujours nouveaux, dérangeant le thème dans son identité de résultat, réveillant la subjectivité de l'identité où elle repose dans son expérience. La réduction utopique n'a-t-elle pas, entre autres, pour viser de réactiver les rêves des vaincus, de rendre vie aux impulsions utopiques qui les ont conduits à la révolte? N'a-t-elle pas pour objet de ranimer à son tour l'exigence d'égalité qui traverse les siècles et de rejeter l'intolérable division entre maître et esclave? Contre la sagesse historique, le savoir pétrifié des nations qui prétendent régenter l'humanité et la faire se tenir à sa place, l'époquée utopique ne travaille-t-elle pas aussi à réveiller des intentions assoupies, à rouvrir des horizons disparus, à l'encontre des horizons indépassables que les classes dominantes ne cessent d'agiter pour mieux désarmer les dominés? Cette conversion qui participe de l'héroïsme de l'esprit humain ne cherche-t-elle pas à réveiller les subjectivités qui ont tellement incorporé, intériorisé les éléments constitutifs et les contraintes de l'ordre établi, que s'il leur arrive de concevoir des rêves utopiques, elles les refoulent aussitôt au nom d'une prétendue inéluctabilité de l'ordre humain? Quand la réduction devient intersubjective, donc quand elle prend en charge la question de l'autre, elle ne se contente pas d'informer, de rejeter, mais elle peut révéler un ensemble de relations humaines à peine entrevues. Ce sont les expressions mêmes de Lévinas dans Totalité infinie. Comme si la mise à l'écart de l'odieuse hypothèse de Hobbes, la guerre de tous contre tous, incrustée dans la sagesse des nations, laissait le champ libre pour l'apparition d'une autre figure de l'humain, à l'opposé des évidences du monde. Encore faut-il que la réduction parvienne à accomplir un saut dans la révolution permanente, à se rendre disponible à une nouvelle modalité de l'éveil, bref, à concevoir dans la rupture avec la tradition philosophique une pensée qui ne soit pas savoir, qui soit, pour reprendre encore une expression de Lévinas, qui soit autrement que savoir. Et ça, c'est certainement une des plus grandes découvertes de Lévinas, d'avoir considéré que la pensée pouvait avoir accès à autre chose que le savoir. Or, pour autant qu'on arrache l'utopie à la compréhension et qu'on la resitue dans la relation « je-tu », au sens de Buber, du côté de la rencontre, donc, issue de la proximité, du fait du prochain, ne rejoint-elle pas la réduction intersubjective au point de se confondre avec elle, tant elle connaît des mouvements analogues, le renoncement à la primauté du moi et à sa volonté hégémonique. Née de la proximité, l'utopie, loin d'être un projet intentionnel, est épreuve non intentionnelle du pour l'autre, épreuve redoublée car l'utopie en tant qu'avenir d'utopie est dédicace à l'autre. Je cite « La relation avec l'avenir » une phrase de Lévinas dans « Le temps et l'autre », la relation avec l'avenir, c'est la relation même avec l'autre. Lévinas prévient « Le néant de l'utopie, car l'utopie comprend un moment de néantisation, n'est pas le néant de la mort, alors que cette dernière, outre l'anéantissement et l'impossibilité d'avoir un projet, et l'impossibilité de la possibilité, le néant de l'utopie, espoir de réaliser ce qui n'est pas encore, manifeste sa négation sous forme d'une mise entre parenthèses de l'intéressement, du jeu du Conatus et Sendi, et de l'affairement qui en découle. En vue d'atteindre la possibilité de possibilité autre, de découvrir un devenir autre, le non-identique ou le tout autre social, penser autrement que savoir, l'utopie, éprouvée dans la perspective d'une philosophie de l'évasion, accède à une pratique radicale de l'époque. Il ne s'agit plus de sortir de l'être devenu, ce qui est le cas par exemple chez Ernst Bloch, mais de sortir de l'être en tant qu'être, vers l'autrement qu'être, ce que Lévinas montre dans De l'évasion. Sous le signe du désintéressement, l'utopie est l'œuvre d'une subjectivité, d'un sujet qui ne revient pas à l'attention sur soi, au souci d'être, subjectivité comme dédicace à un monde à venir. De cette description de l'époque, on peut donc souhaiter qu'elle ouvre une voie à l'intelligibilité de la conversion utopique et au-delà interroge, à travers la transformation de la subjectivité, la naissance de l'homme animal utopique. On le voit, l'utopie pensée sous le signe de l'époque phénoménologique a pour visée d'arracher au sommeil dogmatique dans ses différentes formes et notamment d'arracher au sommeil dogmatique de l'ordre établi, qui est tel qu'il est. Aussi lui importe-t-il, grâce au suspens du cours des choses, du monde social historique, de provoquer l'éveil d'une autre figure de la subjectivité, débarrassée de tout ce que, sous l'emprise de l'ordre établi, elle avait incorporé ou intériorisé. Ainsi, Lévinas parle-t-il du réveil de significations endormies, susceptibles d'ouvrir des horizons inconnus et de laisser apparaître l'humain pur ou l'humain utopique. Loin de se limiter à de simples intentions, il s'attaque dans son œuvre à Hobbes, dont la pensée est par excellence anti-utopique. Il va même jusqu'à concevoir un véritable contre-Hobbes, un contre-modèle du Léviathan. À la guerre de tous contre tous, et à sa priorité, Lévinas oppose une autre hypothèse, celle de la proximité et de sa précédence. Plutôt que d'affirmer la paix ou la socialité, il change radicalement de terrain en posant la question « Que signifie dans l'économie de l'être le domaine si peu connu, si peu exploré des relations interhumaines ?» Plus précisément, la relation à l'autre homme ne signifie-t-elle pas l'interruption du jeu de l'être ou de la persévérance dans l'être, c'est-à-dire du conatus? Aussi Lévinas substitue-t-il aux évidences du sens commun, souvent proche du savoir embourgeoisé et pétrifié de Hobbes, penseur de l'individualisme possessif, la révélation d'une intrigue plus ancienne, originaire, anarchique, celle de la proximité, à laquelle le philosophe accède quand il pratique la réduction phénoménologique. Ce geste fait se lever des paysages inconnus, réveille des significations occultées par le savoir du monde, au point de concevoir une extravagante hypothèse quant à la naissance de l'État, selon laquelle ce dernier ne serait pas issu d'une limitation de la violence, mais d'une limitation de l'infini du pour autrui. Je m'arrêterai un moment sur une phrase essentielle de Lévinas, en ce qu'elle découvre soudain un passage, mieux un rapprochement entre l'époque phénoménologique et l'utopie. En effet, Lévinas interroge, c'est donc le Dieu qui vient à l'idée, je cite, « la face visible de cette interruption ontologique, de cette époque, c'est-à-dire de suspendre le mouvement de l'être, de l'intéressement de l'être, de l'essement, comme dit quelquefois Lévinas, ne coïncide-t-il pas avec le mouvement pour une société meilleure ? Ne nous y trompons pas, la relation posée entre l'époque et l'utopie n'est pas à sens unique. Entendons que si d'une part l'utopie, le mouvement vers une société meilleure, rend perceptible et manifeste l'interruption ontologique, l'époque, que d'autre part et inversement, l'époque phénoménologique permet de comprendre le mouvement interne de l'utopie, bref, la conversion utopique. Autrement dit, si la face visible de l'interruption ontologique, l'époque, est le mouvement pour une société meilleure, c'est-à-dire l'utopie, la face intelligible du mouvement pour une société meilleure, l'utopie, n'est-elle pas l'interruption ontologique, l'époque ? D'un côté, quand on va de l'époque à l'utopie, on découvre comment l'époque se manifeste, apparaît. De l'autre côté, quand on va de l'utopie à l'époque, on perçoit comment l'utopie fonctionne ou le comment de la conversion utopique. Dans un cas, l'interruption ontologique, l'interruption de l'être qui tend à persévérer dans son être, mais aussi l'interruption ontologique de l'ordre établi, qui paraît se confondre avec l'être même, rend possible une sortie de l'être, une évasion, un autrement qu'être. Et du même coup, le désintéressement et l'advenue du pour l'autre, de la responsabilité pour autrui, de ce qui anime et nourrit la force utopique selon Lévinas. Dans l'autre cas, grâce à la confrontation avec l'époque, on devient à même de comprendre comment se met en mouvement et se met en œuvre l'utopie, son principe en quelque sorte. L'utopie fonctionne ou peut fonctionner à l'époque. C'est par l'interruption ou le suspens qu'elle effectue et qui la constitue qu'elle peut transcender ce qui paraît aller de soi, mais ne va pas de soi. C'est par ce mouvement qu'elle peut s'élever au-dessus de l'ainsi nommé réel, en venir à bout, au point de laisser advenir ce qui est différent. À vrai dire, peut-on concevoir une utopie sans époque ? J'en viens maintenant à la deuxième démarche, celle de Benjamin, qui associe de même l'utopie à l'éveil, tout en pensant autrement le trajet qui doit mener à la sortie du sommeil, à la sortie du rêve. Dans le souci de préparer la confrontation avec l'époque, portons-nous tout de suite vers l'image dialectique étroitement liée à la question de l'éveil. Pensée sous le signe de la fulgurance, l'image dialectique est l'énergie qui polarise soudain le champ du rêve, arrache le rêveur au sommeil et le projette vers l'éveil. Une part de l'originalité de Benjamin provient de ce qu'il a pratiqué une conversion à l'utopie d'une grande ampleur. Il est d'autant plus porté à prendre au sérieux les utopies qu'il estime que pour rendre compte d'une époque, il convient de prêter la plus grande attention à la conscience onirique du collectif, à ses rêves. Et c'est par cette voie qu'il donne une épaisseur tout à fait nouvelle à l'utopie. Aussi est-il déterminé à explorer des zones de l'histoire jusque-là négligées, voire ignorées. Aussi, sa conversion à l'utopie est-elle sans précédent. Encore faut-il résister, selon lui, à la fascination que peuvent exercer les utopies. C'est pourquoi Benjamin recommande d'avancer dans cette forêt vierge, je cite, « avec la hache aiguisée de la raison ». Pour débarrasser les expressions du rêve, je cite encore, « des broussailles du délire et du mythe ». Il va de l'émancipation. Il traite le XIXe siècle comme le rêve dont il faut s'éveiller. Un cauchemar qui pèsera sur le présent tant que son charme ne sera pas rompu. Ou encore, nous devons nous réveiller de ce que fut l'existence de nos parents. À vrai dire, la visée de Benjamin est plus cathartique, salvatrice, que seulement critique. Elle cherche non le rejet des utopies, au nom d'une instance prétendument supérieure, la science par exemple, mais leur sauvetage. Or, ce sauvetage des utopies passe précisément par une transformation de l'utopie, ou de l'image de rêve, en image dialectique. Il s'ensuit que dans le cas de Benjamin, la conversion à l'utopie ne saurait suffire. Elle doit connaître une complication, et cela dans l'intérêt de l'utopie, en ce que l'exercice du soupçon, en raison de l'ambiguïté qui habite l'utopie, doit aboutir à son sauvetage sous forme d'une métamorphose de l'image utopique en image dialectique sous forme de l'éveil. Que faut-il entendre par l'ambiguïté des utopies? Ambiguïté multiple. La manifestation et l'expansion de l'ambiguïté dépendent avant tout du mélange, de l'enchevêtrement dans le rêve de l'image utopique ou l'image de rêve, et de l'image mythique, comme si ces deux images tiraient dans des sens contraires. L'une, l'image mythique, réactive les rêves de l'origine, la rémanence du destin dans le monde historique. L'autre, l'image utopique, prenant son envol ou tentant de le prendre vers un devenir autre qui serait en rupture avec le monde du mythe. Selon Benjamin, il semblerait qu'il existe des images de rêve dans lesquelles, à cause du mythe, le mort saisit le vif, dans lesquelles le destin, soit la violence des dieux, fait retour. C'est pourquoi le mythe, en tant que réactivation de puissance originaire, retour de l'archaïque, bloque la force d'éveil de l'utopie, la paralyse jusqu'à la détruire, en répandant un nouveau sommeil. Il s'ensuit que si l'on veut rendre à l'utopie son pouvoir d'éveil, il faut neutraliser l'image mythique, réduire son pouvoir d'ensorcellement à zéro. On ne s'étonnera pas de ce que Benjamin soit mis en lumière l'ambiguïté de l'utopie. Précipiter des rêves du collectif, dans la mesure où dans l'exposé de 35, vous savez, c'est les deux exposés par lesquels Benjamin rendait compte de son travail aux gens de l'école de Francfort. Donc il y a deux exposés, il y a l'exposé de 35 et l'exposé de 39. Donc dans l'exposé de 35, il propose une théorie originale de l'utopie, selon laquelle cette dernière comprendrait toujours deux strates indissociables. L'une historique, qui correspondrait à la critique, mais aussi à la transfiguration du mode de production le plus récent, par exemple la critique du monde industriel par Fourier. L'autre, anhistorique, en deçà de l'histoire, par exemple le pays de Cocagne. C'est reconnaître d'emblée que l'utopie est une expression onirique composite, mixte, reposant sur sa dynamique même, sur la compénétration de l'ancien et du nouveau. L'utopie ne peut donc être qu'ambiguë, L'ambiguïté est son élément. Cette propension à l'ambiguïté ne fait que s'aggraver quand on considère la seconde strate, celle qui renvoie à la préhistoire. En effet, Benjamin montre que la distanciation prise par rapport au mode de production le plus récent, c'est-à-dire les manufactures pour les socialistes utopiques du XIXe siècle, ne peut s'effectuer que si l'imagination plastique s'oriente vers le passé le plus ancien, c'est-à-dire la société sans classe. À suivre Benjamin, ce serait très exactement la compénétration du nouveau et des expériences relatives à la société sans classe qui donnerait naissance à l'utopie, soulignant une fois de plus le caractère composite de l'utopie en ce qu'elle comprend à la fois des images venues du passé le plus lointain et des images de souhait appartenant au nouveau. Or, cette insistance de la part de Benjamin sur le passé le plus lointain mène à une ambiguïté majeure, celle de l'âge d'or, objet d'une controverse avec Adorno au cours de l'été 1935. Alors, je ne vais pas revenir sur cette controverse, mais je retiendrai que Adorno ne cesse de rappeler à Benjamin, dans leur correspondance, que l'âge d'or serait l'ambiguïté par excellence, puisqu'il serait à la fois Arcadie et enfer, soit un mélange d'images de rêve et d'images mythico-archaïques. À écouter Adorno, Benjamin aurait accepté de façon non critique la catégorie de l'âge d'or et par son hypothèse dualiste des strates de l'utopie, aurait ouvert la porte à une image mythique dont il serait resté malgré lui prisonnier. La critique d'Adorno est particulièrement sévère. Elle est aveugle au travail d'interprétation de Benjamin. Elle est injuste et non fondée. Adorno se méprend sur le travail de Benjamin. Ce dernier n'a pas reçu la catégorie de l'âge d'or comme la garantie rassurante de l'accès de l'époque à un futur prochain harmonieux. Mais c'est dans un climat d'inquiétude suscité par la catastrophe qui menace qu'il a soumis le matériel onirique, les images de rêve du XIXe siècle, à un travail d'interprétation et de construction. Selon Benjamin, reprenons une image qui lui est chère, le sujet du rêve doit tendre un arc entre le sommeil et le rêve. Comment Adorno a-t-il pu ne pas voir que Benjamin se tenait sur le seuil de l'image dialectique lorsqu'il déclarait à la fin de ce même exposé « L'exploitation des éléments du rêve au réveil est le cas type de la pensée dialectique. C'est pourquoi la pensée dialectique est l'organe de l'éveil historique. » Donc, quoi qu'il en soit, quand Benjamin élabore la notion d'image dialectique, il la présente et la conçoit avant tout comme une technique de l'éveil historique. Ce faisant, il apporte une contribution essentielle à la question qui nous retient, celle de l'utopie et de l'éveil. L'utopie est une force d'éveil historique dans la mesure où elle se transforme en image dialectique. La notion benjaminienne d'image dialectique ne manque pas d'étonner. Une image en tant que telle ne défie-t-elle pas la contradiction et en conséquence n'échappe-t-elle pas à la dialectique, ne lui est-elle pas foncièrement étrangère? Cette première objection peut être aisément dépassée, car dans le champ des images, la dialectique se définit pour Benjamin sous la forme de l'ambiguïté. Dans l'exposé de 35, Benjamin déclare, je cite, « L'ambiguïté est la manifestation figurée de la dialectique, la loi de la dialectique à l'arrêt. » Alors, de ce passage essentiel, je retiendrai trois orientations. D'abord, le rapport entre l'ambiguïté et le passage, et la dialectique dans la sphère des images, comme si l'ambiguïté était la manifestation des contradictions possibles. Deux, la détermination d'une forme spécifique de pensée dialectique, la dialectique à l'arrêt. Trois, le retournement de l'ambiguïté. En effet, dès que l'on se tourne vers l'image dialectique, l'ambiguïté paraît changer de statut. aveu de faiblesse de l'utopie quand l'ambiguïté se manifeste sous la forme d'une intrication entre l'image de rêve et l'image mythique, pays de Cocagne ou âge d'or, l'ambiguïté se révèle soudain comme la voie qui va permettre à l'utopie de se débarrasser du mythe en ce qu'elle lui ouvre la voie de la dialectique et donc celle de l'éveil. L'image dialectique, c'est donc une image qui a été d'abord ambiguë et qui, au moment de l'arrêt, devient subitement dialectique, laissant libre cours aux contradictions et libérant du même coup la force utopique de l'image de rêve. De surcroît, l'ambiguïté introduit à une nouvelle figure de la dialectique à l'arrêt, plus complexe que celle que nous associons classiquement à la dialectique. Si l'on suit Benjamin, la dialectique n'est pas seulement déploiement des contradictions internes d'une totalité et donc mouvement. Elle peut être aussi immobilisation, arrêt, comme si la rencontre d'un phénomène non identique et non intégrable à un mouvement de totalisation, par exemple la souffrance, une souffrance qui est insensée, qui n'est pas susceptible d'être intégrée dans une donation de sens, venez interrompre le jeu des contradictions ainsi que la relève destinée à les surmonter. Cette immobilisation de la dialectique est un des lieux naissants et l'une des définitions de l'image dialectique dans l'œuvre de Benjamin. Il écrit « Lorsque la pensée s'immobilise dans une constellation saturée de tensions, apparaît l'image dialectique. » À cette nouvelle figure de dialecticien revient donc la tâche de construire l'image dialectique, c'est-à-dire le lieu où la tension entre les contradictions est la plus intense. L'arrêt sur l'image, pourrait-on dire. À l'arrêt, en effet, l'ambiguïté se cristallise, et là où les contradictions, c'est là que les contradictions explosent, libérant la virtualité émancipatrice, voire révolutionnaire de l'image. Aussi, la construction d'une constellation saturée de tensions par immobilisation n'est-elle pas un suspens contemplatif, mais un arrêt pratique, donc un arrangement à l'histoire, au continuum de la domination, bref, un sauvetage. Nous l'avons déjà observé, c'est bien à l'immobilisation que Benjamin rapporte le surgissement de l'image dialectique et donc l'éveil historique. L'immobilisation de la pensée fait autant que leur mouvement partie de la pensée. Et toujours cette phrase, lorsque la pensée s'immobilise dans une constellation saturée de tension, apparaît l'image dialectique. Le projet souvent réitéré de Benjamin dans Paris capitale du XIXe siècle est de mettre au point un essai de technique du réveil. Le guetteur de rêve, c'est ainsi que je définis Benjamin, reprenant une expression de Hugo, le guetteur de rêve a donc pour tâche de devenir un technicien du réveil, capable de trouver, ou plutôt de construire la constellation du réveil. Autant à la différence des surréalistes, par exemple l'Aragon du paysan de Paris, le guetteur de rêve veille à ne pas se laisser envoûter par le charme des mythes tirant vers le néant, autant il lui importe de ne pas rejeter ni négliger ces formes de rêve, ces visions oniriques du collectif au sein desquelles le rapport à la mort peut être surmonté. C'est dire qu'il ne suffit plus au guetteur de rêve de dévoiler la fausse monnaie des rêves du XIXe siècle. Il lui faut encore prendre acte des rêves du collectif, leur accorder un degré de réalité, leur prêter attention, mieux en prendre soin en quelque sorte, parce qu'à certaines conditions, ils ouvrent une voie possible vers l'éveil historique. Dans l'esprit de Benjamin, il existe une étroite corrélation entre le rêve et le réveil. En effet, si le collectif exprime ses conditions de vie dans le rêve, et en produit l'interprétation dans le réveil, cela veut dire que rêve et réveil sont étroitement liés. Le rêve est la condition de possibilité du réveil, puisque seule son interprétation est susceptible d'y donner accès. On mesure ici le statut complexe du rêve. Certes, un rêve ne conduit pas nécessairement à l'interprétation. Il peut s'enliser dans l'ensorcellement et alourdir le sommeil. Mais si tel n'est pas le cas, il peut aussi virer vers l'éveil. Benjamin accorde explicitement au rêve la chance d'entraîner, peut-être par la ruse, l'éveil. Je cite, « Le rêve attend secrètement le réveil. Celui qui rêve ne se livre à la mort qu'à titre révocable. Il attend la seconde où il s'arrache par la ruse à ses griffes. Il en va de même pour le collectif qui rêve et auquel ses enfants donnent une heureuse occasion de se réveiller. L'utopie en tant que précipité des rêves du collectif peut à certaines conditions ouvrir la voie à la révolution. Donc lorsque Benjamin assigne aux techniciens du réveil de tendre un arc entre le sommeil et le réveil, cela implique entre autres missions de focaliser l'attention et si besoin est son intervention sur les formes oniriques, les images du rêve. Donc si vous voulez, nous disposons de deux réponses à la question du comment s'opère la conversion utopique. Soit la conversion à l'utopie se fait sur le modèle de l'époké, et c'est la possibilité donc d'une époké utopique, soit une conversion à l'utopie se fait sous forme de l'image dialectique, comme l'entend Benjamin. Mais je laisse de côté la confrontation entre les deux. J'indiquerai seulement deux points. Chez Lévinas, l'éveil se situe dans un registre éthique, ce qu'il appelle dans un texte la folie éthique, tandis que Benjamin mène un combat avant tout politique, c'est-à-dire qu'il poursuit un intérêt d'émancipation. Mais en dépit de cette différence, l'un et l'autre ont abouti à un résultat qui n'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils ont changé l'un et l'autre le statut de l'utopie. À l'utopie pensée classiquement du côté de l'illusion, du côté de l'idéologie ou du côté du mythe, ils ont substitué l'utopie en tant que force et technique de l'éveil ou du réveil. Et il est évident que ce changement de statut est pour certains tout à fait scandaleux. Pour conclure, je vais revenir à Thomas More. L'auteur de l'utopie. Ce dernier n'est-il pas déjà, dans un contexte historique et philosophique différent, un technicien du réveil? N'a-t-il pas inventé en effet une technique du réveil plus proche du matérialisme en ce qu'elle porte sur la transformation des conditions de vie? N'a-t-il pas tout à la fois élaboré une technique de l'éveil continué dans la mesure où il a dessiné une voie inédite pour maintenir vivante et active la disposition utopienne ou l'heureuse rencontre de l'éveil et de l'utopie? La lecture de l'utopie n'apporte-t-elle pas la bonne nouvelle que les habitants de l'utopie connaissent pour l'époque une réduction sensible de la journée de travail qui est ramenée à 6 heures? Ainsi est décrite la technique du réveil qui porte sur le temps consacré au travail dans l'économie d'une journée. Plus remarquable encore, et le souci de Thomas More de maintenir éveillés les utopiens, d'entretenir et de réactiver en permanence chez eux ce qu'on pourrait appeler la disposition utopique. Extraordinaire en effet, dans son écriture, est ce moment. L'idée est exposée en termes prosaïques, avec une sobriété telle qu'elle passe presque inaperçue au point que nombre de critiques reprennent la vieille accusation du statisme de l'utopie. Je lis ce passage. Aiguisé par les lettres, par la pratique des humanités, aiguisé par les lettres, l'esprit des utopiens est éminemment propre à inventer des procédés capable d'améliorer les conditions de vie. C'est ainsi que la technique du maintien de l'éveil, la culture des lettres, s'exerce chaque jour. En quoi Thomas More, de par son intérêt pour les conditions matérielles de la vie, est en consonance avec ce que Maximilien Rubel appelle l'utopie socialiste de Marx, lorsque ce dernier, à la fin du Capital, décrit le règne de la liberté. Je cite « La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale de cette libération. » La conversion utopique, la conversion à l'utopie, investit donc la question de la temporalité et se donne en l'occurrence pour objet une inversion du temps de travail et du temps de loisir, ce dernier l'emportant en tant que règne de la liberté sur le travail qui est l'armature du règne de la nécessité. Mais à se mettre en mémoire la révolution de Ernst Bloch quant au rapport du temps et de la mort, c'est-à-dire que pour Ernst Bloch, il ne faut pas penser le temps à partir de la mort, mais il faut penser la mort à partir du temps. Donc, n'apparaît-il pas que cette conversion dans son investissement de la temporalité, est appelée à se montrer encore plus audacieuse? Ernst Bloch, l'auteur de l'esprit de l'utopie, n'invite-t-il pas à penser la mort à partir du temps, qui est un geste effectivement révolutionnaire et critique de Heidegger, en ce qu'il détrône la mort de sa position de maître absolu et touche du même coup à l'économie de la condition humaine? Ne pourrait-on aider en cela par Lévinas, lecteur admiratif de Ernst Bloch, ce qui est très souvent oublié, pousser l'audace un pas plus loin et imaginer que sous l'effet d'un tel renversement, le Dasein, en proie à son souci d'être, en son être il y va de cet être même, dit Heidegger, fasse place à l'étant humain, dans son rapport à l'autre étant, animé par le souci pour l'autre homme, par l'un pour l'autre, l'autre qui, en tant qu'autre, ouvre les figures d'un avenir d'utopie. Que le temps, écrit Lévinas, ne remonte pas à l'être pour la mort. Que le temps, dans son avenir même, ne remonte pas à la finitude tendue vers l'être pour la mort, mais ait une autre signification. Une autre signification, on pourrait dire que au Dasein, être pour la mort, se substituerait l'humain utopique, l'homme animal utopique, l'être pour l'utopie, comme si l'utopie, l'avenir d'utopie, offrait soudain à l'étant humain, aux étants humains, sa possibilité la plus propre et la plus insigne, à savoir la conversion utopique. Voilà, je vous remercie de votre attention.
D'avoir partagé toutes ces précieuses réflexions. Il est 16h10, on a jusqu'à 17h, donc dès maintenant, et que je cède la parole à la salle pour des questions, réflexions. Était très philosophique. J'ai une question qui est plus d'ordre historique et je pense à ça parce que hier, complètement par hasard, je lisais Daniel Ben Saïd, La politique comme art stratégique, où la politique est un art stratégique. Et dedans, il parle d'utopie, ça peut paraître un peu surprenant. Il émet une hypothèse et je voudrais vous la soumettre pour votre commentaire. Il dresse un parallèle entre. L'époque récente, les années 90-2000 et l'émergence de l'altermondialisme, qu'il appelle lui un moment utopique, et l'époque post-1848 avec les socialismes utopiques. Et il voit dans le parallèle et dans les similitudes entre ces deux époques quelque chose justement de commun. Il explique que c'est a priori souvent après les grandes défaites du mouvement ouvrier, ou en tout cas des processus d'émancipation, que ressurgissent comme ça des moments utopiques, il appelle ça ainsi. Et il pousse même l'hypothèse plus loin, il explique que ces moments utopiques, alors là il se fait un peu critique vis-à-vis donc, à la fois du socialisme utopique et de toutes les réflexions et les mises en pratique qui ont accompagné le mouvement intermondialiste, il explique que ces moments utopiques sont concomitants avec un reflux de la question stratégique, avec un reflux de la question du pouvoir, du rapport au pouvoir, pas forcément de la prise de pouvoir, mais du moins du rapport au pouvoir que lui considère comme la question éminemment politique. Et je voulais vous soumettre.
Non, parce que la doctrine classique sur 48, c'est que 48 marque la fin de l'utopie. Donc en fait, si j'ai bien compris, au fond, il est fidèle à ça, dans la mesure où il interprète ce qui vient après l'utopie comme ce repli stratégique. Non, oui, ce que j'entends dans le repli stratégique, c'est quand même, je ne sais pas si c'est ça, ce qu'il voulait dire, mais cette idée qu'au fond, il faut dépasser le mouvement utopique et le moment utopique plutôt, et le faire disparaître, ou alors l'articuler à la question du pouvoir et à la politique.
Et alors, il ne développe pas beaucoup, mais ce que je pense qu'il y a chez lui, c'est l'idée qu'il y a une nécessité à combiner cette conversion à l'utopie avec les moyens de sa mise en œuvre, et c'est toute la question stratégique l'application, alors l'application est à mon avis un terme peu judicieux, mais l'application, la mise en œuvre du projet utopique. Donc en fait finalement la question du lien entre utopie et politique.
Oui, personnellement moi j'ai pas jamais fonctionné comme ça parce que j'ai introduit une hypothèse qui est, c'est-à-dire la dialectique de l'émancipation, c'est que les échecs qui sont liés à une dialectique de l'émancipation sont le matériau d'une nouvelle explosion ou d'une nouvelle floraison utopique. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai appelé le nouvel esprit utopique qui justement, après 1848, est tout à fait important, puisqu'il y a l'utopie de Déjac, l'humanisphère, il y a des textes de Cœur de Roi, et puis plus tard, il y avait William Morris avec le News from the Earth, avec les nouvelles de nulle part. C'est-à-dire que je dirais que ce qui se passe à ce moment-là, me semble-t-il, c'est non pas le refus de l'articulation avec le politique, mais la recherche d'une nouvelle articulation politique et qui dépasserait l'étroitesse des premières articulations. Parce que, par exemple, chez William Morris, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que son utopie s'appelle, pour sous-titre, Une ère de repos. Et son idée, c'est que l'humanité ne connaîtra pas d'émancipation si elle ne pratique pas un moment d'oubli par rapport à l'histoire pré-révolutionnaire. qui est donc là, si vous voulez, il y a il n'y a pas une négation du politique, mais il y a cette idée qu'il faut, comment dirais-je, immerger le politique dans une dimension qui est autre que politique. Mais je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci.
Philippe. Oui, je voudrais prolonger parce que je pense que ce que Ben Saïd a en tête, bon, c'est un problème, mais c'est une vision assez traditionnelle des choses, c'est-à-dire qu'il interprétait, pour en avoir beaucoup discuté à l'époque avec lui, il interprétait l'effervescence altermondialiste comme un moment dans une vision un peu pauvre de la dialectique hegelienne où, où il y a un renouveau utopie et après on va pouvoir passer au sérieux, la politique. Mmh. Alors c'est une vision quand même typiquement léniniste, c'est-à-dire qu'il y a le lobe utopique qui n'est pas très sérieux mais qui est un terreau, on peut dire. Et puis après vient la vraie phase, d'où l'admiration pour Lénine, hein, dans ses textes sur la stratégie, la vraie phase politique sérieuse, c'est-à-dire celle du savoir stratégique qui, disons, se dégage de la gange utopique. Mmh. Alors, à mon avis, c'est une vision très traditionnelle, et alors qu'il me semble que ce que propose ici Miguel Abensur, c'est la possibilité d'avoir un rapport entre utopie et politique qui ne soit pas ce rapport traditionnel du surplomb ou du nécessaire aboutissement politique où l'utopie n'est simplement qu'un terreau. Ça, c'est là quand même la vision la plus courante dans les théories de l'action marxiste et léniniste. Par contre, le problème, c'est que Ben Saïd pose un vrai problème, à mon avis, politique, c'est la place des savoir-faire stratégiques. C'est-à-dire les connaissances du passé qu'on peut avoir quant aux différentes modalités d'articulation entre les fins et moyens dans des circonstances historiques pour faire advenir l'émancipation. Alors ce problème du savoir-faire stratégique, il est important. Le problème, c'est qu'il le met au-dessus et qu'il n'échappe pas à la vision léniniste que qu'un groupe, une avant-garde, monopolise en fait le savoir stratégique. C'est ça le rôle du parti. Par rapport à la masse. Mais se pose quand même ce problème, j'ai toujours eu des désaccords avec lui là-dessus, mais reste-t-il posé ce problème de la place des savoir-faire stratégiques si les savoir-faire stratégiques n'étaient pas mis simplement en surplomb ou monopolisés par un groupe. Bon. Se poserait cette question, ne serait-ce que de la mémoire stratégique du mouvement ouvrier, c'est-à-dire de toutes les combinaisons qui ont été produites dans des circonstances historiques différentes. Et je pense que ça supposerait, si on enlevait du poids léniniste, ça supposerait de penser la tension entre les deux. Alors, je me demandais en écoutant l'exposé, puisque vous avez dit que Lévinas était plutôt du côté de l'éthique et Benjamin de la politique, il y a des amorces de mise en tension de l'éthique et de la politique chez Lévinas, en particulier à notre enquête, sous la forme de la politique étant associée au tiers, à la justice, aux institutions. La fois, il dit la politique.
Ah non, ça, je suis tout à fait d'accord, mais simplement, c'est une partie que je n'ai pas développée, parce que autrement, ça nous aurait entraîné trop loin dans le temps. Alors, mais je suis tout à fait d'accord sur.
Sur ça, c'est qu'il pose la tension, notamment quand il. Moi, pour moi, c'est la figure, la formule la plus importante pour moi. C'est quand il dit qu'il faut comparer l'incomparable, il pose la tension entre l'éthique qui est de l'ordre de l'incommensurable et qui ouvre sur une singularité incommensurable, et la question de la justice sociale qui suppose de la comparaison entre les personnes.
Oui, simplement, il a dit toujours, hein, c'est qu'il y a communication permanente entre les deux. Hein. C'est-à-dire que. On ne va pas tout à coup, quand on est dans la justice sociale, penser à la gestion de masse humaine, etc. Pas du tout. Il y a toujours un rapport avec l'incommensurable de l'éthique.
Qui est une articulation et une tension, parce qu'en même temps, comparer l'incomparable, c'est toujours contradictoire.
Oui.
Et je me demandais, moi, c'était mon hypothèse, si Lévinas nous ouvre pas une possibilité de traiter autrement que Marx le problème de la critique du programme de Gotha. C'est-à-dire que dans la critique du programme de Gotha, Marx donne, dans une logique hegelienne, donne une phase, disons, pour la justice sociale, où le référent de la justice sociale, la théorie de la justice, c'est le travail, à chacun selon son travail, on peut dire. Et puis la phase supérieure, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, où là, c'est le déploiement de la singularité. Mmh. Il me semble, je me demande si Lévinas, en disant « il faut comparer l'incomparable », en articulant, en mettant en tension, il ne casse pas cette facilité hegelienne de Marx en nous indiquant un lieu très intéressant, qui est la tension entre les deux phases de Marx, mais une tension qui devrait être tout le temps là, d'une certaine façon, qui n'est pas un moment pour la justice sociale et un moment pour la singularité.
Oui, on peut créditer Lévinas de cela, moi je veux bien. Parce que moi j'ai toujours. Parce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'arracher Lévinas à une lecture purement éthique, de montrer qu'il y a tout à fait une dimension politique, mais justement en gardant le contact avec, en permanence avec la dimension éthique. C'est-à-dire que le pour l'autre et le rapport au tiers n'étant pas séparés, n'étant pas séparables. Mais si je reviens à Ben Saïd, je pense que son rapport à l'utopie a été un peu modifié. C'est ça peut-être qui pose problème, parce qu'il a écrit un livre sur Benjamin. Je me souviens, il y a assez longtemps. Et que donc par là, la doxa marxiste, je ne dis pas la doxa marxienne, parce que je pense que la position de Marx à l'égard de l'utopie est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce que le marxisme en a retenu. Mais je pense que la fréquentation de Benjamin a fait qu'il s'est éloigné quand même de la doxa marxiste sur l'utopie.
L'allusion à Marx pour revenir alors du coup sur un autre texte, la lettre à Ruge, de 43, parce que je suis frappé que dans cette lettre justement le thème du rêve et de l'éveil et de la prise de conscience est en réalité la thématique dominante de ce texte, quoi. La formule de Marx disant le monde possède depuis toujours le rêve de quelque chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour que cela devienne réalité. Et donc, au fond, la perspective de Marx, là, contre Cabet, puisqu'il s'en prend à Cabet et à Vicari, c'est de dire que la fonction, on pourrait dire qu'une fonction de l'utopie, c'est précisément la prise de conscience, c'est-à-dire l'éveil, au sens
bénéminien. Oui, tout à fait d'accord
avec ça. Oui, je ne doute pas que je sois totalement d'accord avec ça. Et la question que j'avais dans la tête, c'est plutôt la chose suivante, c'est... Si dans la dispute avec Adorno, le passé renvoie à un âge d'or, en revanche, quand Marx dit « le monde possède depuis toujours le rêve », etc., ça ne renvoie pas à un âge d'or du tout. Du coup, c'est quoi cette figure du passé chez Marx qu'il suffirait de réveiller pour que, au fond...
Je crois que c'est toutes les luttes...
C'est la mémoire des luttes.
Toutes les luttes, toute l'histoire des luttes, quoi, toute la conscience des luttes. Qu'on trouve chez Horkheimer, d'ailleurs, quand il dit quand même toute l'histoire est traversée par une lutte pour la justice. Et pour le... Non, mais là, je suis tout à fait d'accord, puisque justement, c'est à partir de là qu'on peut montrer que la position de Marx n'est pas du tout de liquider les utopies, mais ce que moi j'ai appelé, m'inspirant à l'époque de Korsch, par un sauvetage par transfert, c'est-à-dire de... non pas de... Le travail de Marx ne portant pas sur le contenu des utopies, parce que il y a une école, disons, qui ne veut pas être trop dure à l'égard des utopies, donc qui essaye de montrer qu'il y a des éléments qui sont passés du corpus utopique dans le corpus marxien au niveau du contenu. Et moi, je crois que c'est pas ça qui est intéressant. Je crois que c'est intéressant, c'est au niveau de la forme. C'est-à-dire que Marx a fait un sauvetage par transfert de l'utopie au niveau de la forme, c'est-à-dire en transférant l'utopie dans une pensée dialectique de l'histoire. Et donc là, il essaye, parce que je pense qu'il y a chez Marx une prévision de l'avenir, ce qu'il appelle une prévision morphologique, et il essaye de nouer sur le modèle des utopies un autre rapport avec l'avenir. Donc c'est pas du tout au niveau du contenu. Et ça, et évidemment, ça n'a pas été accepté par les marxistes. Et notamment, par exemple, Marx est beaucoup intéressé aux communistes matérialistes français du 19e, des gens comme Desamis, par exemple, et où il était très intéressé par justement la manière dont ils avaient de penser l'avenir. C'était ça qui l'intéressait. Donc je crois que c'est ça le. Et donc dans ce sens-là, c'est pas du tout la mort de l'utopie, mais c'est pour ça que j'appelle ça un sauvetage par transfert, et sauvetage qu'on retrouve tout à fait chez Benjamin. Enfin, je pense le même mouvement qu'il y a chez Benjamin, avec simplement quelque chose qui n'y a pas chez Marx, parce que. Ce qu'Adorno ne veut pas voir, c'est que Benjamin procède à l'égard des images de rêve du collectif d'une façon analytique. C'est-à-dire qu'il s'agit pour lui de construire ces images et de les interpréter. Enfin, dans la lettre, il y a une lettre célèbre de Benjamin à la femme d'Adorno, puisque quand il n'arrivait pas à se faire entendre d'Adorno, il écrivait à sa femme, pensant que c'était le meilleur moyen de se faire entendre. Et donc il explique, il dit, mais moi j'ai absolument pas, j'ai pas recopié, j'ai pas seulement enregistré, j'ai interprété. Et pour interpréter, j'ai construit. Et s'il a construit, justement, il a construit des champs saturés de tension. Et c'est à partir de là. Et c'est là que sa démarche est politique, puisqu'il explique la différence entre lui et un historien. C'est qu'un historien pense que c'est l'autrefois qui est fixe et il fait tourner le présent autour de l'autrefois, alors que le travail de Benjamin, c'est de faire du présent ce qui est fixe et il fait tourner l'autrefois autour du présent, avec cette idée qu'il y a des images de rêve ou des images d'émancipation, et donc il faut s'emparer, le présent fait un bond de tigre sur ces images et les interprète, les détruit, mais en même temps en sauve la partie émancipatrice. Par exemple, quand il c'est toute sa position à l'égard de l'éternité par les astres de Blanqui, Blanqui critique la fantasmagorie du progrès dans l'éternité par les astres, et il substitue à ça l'idée d'une éternelle répétition du même. Et Benjamin montre que finalement, Blanqui, qui est un fantastique critique des fantasmagories du 19e siècle, en même temps, par cette idée de la répétition du même, il crée une nouvelle fantasmagorie. Donc il faut s'emparer de Blanqui, détruire ce qu'il y a de. Ce qui ruine toute possibilité d'émancipation, mais garder ce qui va contre les fantasmagories du 19e siècle, et notamment l'idée du progrès. Donc là, il y a un jeu très, très, très complexe, mais qu'Adorno n'a pas vu ou ne voulait pas voir. Hein, ça, c'est un autre problème.
Je me demande si je peux te poser une question.
Ah ben oui. Je ne vois pas ce qu'il interdirait.
On s'en assurait à l'avance. Non, mais c'est sur ta formulation, le tout autre social du début.
Oui.
Que tu adaptes à partir de Lévinas. Est-ce que tu crains pas que ce mot social risque de accoler à tout autre via Lévinas, risque des malentendus du côté de tes auditeurs, c'est-à-dire que quand on entend tout autre social, oui. On pense social au sens, j'irais associé presque pas sociologique du terme, ça. Et est-ce qu'au fond, en mettant est-ce que social, tu l'entends peut-être au sens de socialité chez Lévinas, puisqu'ensuite tu parles de une nouvelle forme de lien entre les hommes, etc. Donc est-ce que cette formule, finalement, ne risque pas de provoquer un peu un malentendu chez tes auditeurs? Quand ils entendent tout autre social, je pense que tout de suite, on ne pense pas nécessairement à ce que toi, tu veux dire quand tu dis ça.
Non, mais j'entends toute autre institution de la société humaine. Non, c'est vrai.
Et la deuxième chose, si je peux me permettre, ça serait une suggestion pour continuer dans la métaphore du réveil, de l'endormissement, etc. Parce que chez Lévinas, il y a un premier moment, c'est l'insomnie.
Oui.
Il y a l'insomnie. Alors, ça serait une autre forme de ne pas dormir, mais il faut et où la conscience. Elle est le moment où on s'endort et où donc où le moment de retour en soi est une libération, une évasion par rapport à cette insomnie où on est submergé par l'être. Mmh. Et après, il y aurait alors la conscience qui s'endort et puis après, il y a cette autre forme de conscience qui serait le réveil dont tu parles. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre avoir une étape d'avant dans cette succession qui serait l'insomnie d'abord qui...
Ben, l'insomnie c'est du côté du réveil le plus aigu.
Oui, mais c'est en même temps dans l'insomnie il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de et on doit s'endormir, c'est-à-dire que la conscience c'est grâce à l'endormissement, l'évasion de cette insomnie insupportable. Et le réveil, c'est autre chose.
Non, mais je crois qu'il me semble que chez Lévinas, l'insomnie, c'est une forme, paroxystique du réveil.
Je crois pas parce que.
Oui, parce qu'il parle de vigilance à propos de l'insomnie.
Oui, mais c'est pas un réveil puisqu'on s'était qu'on dormait pas. On peut pas dormir.
Oui, mais on peut pas dormir parce que justement il y a il y a une conscience aiguë du danger du retour à soi. Et... Moi, Non, mais d'ailleurs, il me semble que j'ai une citation, il faudrait voir. Mais... Parce que ça, c'est une partie que je n'ai pas parlé. Je vais voir si j'ai une citation.
C'est pas une citation.
Non, parce qu'il y a.
Ah oui.
L'endormissement, le non-endormissement, c'est pas. C'est justement ce qui est la forme paroxystique de l'éveil.
Mais pas chez Lévinas.
Quand ?
Pas chez Lévinas.
Si, je crois.
Je crois pas. Bon, on regarde,
on regarde.
Alors en fait c'est une question que je vais essayer de formuler, mais et je suis pas sûr d'avoir tout compris, donc vous me reprenez s'il y a des passages qui sont pas très clairs, mais je me pose des questions sur l'utopie et sur le préfixe ut en fait et son rapport à l'émancipation. Alors dans votre exposé, on a l'impression qu'il y a eu, enfin, que vous décrivez deux moments, un moment de détachement et un moment où on fait l'expérience, enfin une nouvelle expérience de naître au monde, enfin, si j'ai bien compris. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est je repars de Thomas More de l'Utopia, qui je crois que c'était 1516 ou je sais pas, je sais plus exactement, soit à peu près une vingtaine d'années à peu près après Christophe Colomb. Alors je m'intéresse sur la place en fait, sur le rapport entre cette utopia en fait, cette place qui n'est pas, qui n'a pas de place, et la place où l'on est, où on va formuler cette utopie en fait. C'est-à-dire que voilà. Par exemple, dans Thomas More, il y a une phrase. Enfin, je crois que, en plus, c'est en vous lisant, vous parlez d'une lecture où il ne faudrait pas forcément lire cette utopie comme étant voici le modèle, et voici comment ça se passe, mais plutôt voir le premier acte où il y a cette phrase assez importante dans Thomas More où il dit ce n'est pas parce qu'on ne commande pas au vent, ce n'est pas parce qu'on ne commande pas les vents qu'on va abandonner un navire. Et du coup, je crois que j'ai oublié le nom, mais il explique à son copain, enfin, il est en train de discuter, il explique à son copain en disant, mais non, c'est parce que les politiciens n'ont pas fait tout ce que je veux, que je vais devoir aller ailleurs, abandonner un peu cet espace et aller chercher l'émancipation ailleurs, en fait. Et je vais y arriver. Mais en fait, c'est-à-dire que dans ce moment de détachement, dans cette première étape de détachement dans l'utopie, certaines luttes ont vu, j'ai l'impression, certaines luttes dans le passé, je pense au mouvement de Marcus Garvey, donc qui est un Jamaïcain, mais aussi américain, qui a eu tout ce mouvement en disant, bon regardez, aux États-Unis, nous les Noirs, on ne va pas réussir à obtenir un certain nombre de droits, une certaine émancipation, donc nous devons aller vers cette autre place, en fait, cette autre terre, et du coup, ça a donné le Liberia, des expériences qui, ont reproduit aussi d'autres formes de domination, mais je pense aussi à l'autre exemple de Malcolm X, qui, dans son programme politique au départ, avait pour but, disons, bon ben voilà, nous sommes 20 millions d'Américains à l'époque, de Noirs américains à l'époque, donc nous n'allons pas obtenir notre émancipation sur cette place-là, donc nous devons nous en détacher et aller ailleurs. Donc il y a un problème politique qui impliquait un État nord-américain, enfin séparé, il disait, bon voilà, vous devez nous aider pendant 20 ans parce qu'on nous a supporté pendant quelques années. Et puis il y a toute cette idée qu'il y aurait une terre, qu'il y aurait un lieu, une terre des fois dite promise, où là-bas, l'émancipation se situe là-bas, donc dans un topos qui n'est pas celui-ci, mais qui est bien fixé. Et du coup, je m'intéresse un peu à ce rapport entre utopia, topos et terre de liberté, en fait. On peut avoir... des fois, on peut penser... Si on pense le rapport entre les... le rapport assez ambigu dans la République française au niveau de la citoyenneté, où on va faire dépendre le rapport à l'État une certaine appartenance, où l'appartenance va être des fois topalisée, on va dire, et du coup il faut rentrer dans ce cercle là pour avoir accès à un certain nombre de droits. Enfin, donc voilà, j'ai essayé de formuler une question où je m'intéresse à ce rapport entre utopia et terre de liberté, ou utopia et topos de liberté. Enfin.
Oui, ben, ça, je vais dire des banalités, mais c'est inséparable des grandes découvertes de Thomas More. Hein. Je veux dire, c'est évident que façon, il a été stimulé par l'idée de, d'un territoire autre, hein, où effectivement toutes les, tout ce qui se critiquait dans, dans le vieux monde disparaîtrait. Hein. Et d'ailleurs, le, c'est une île, hein, c'est une île qui est coupée du continent. Donc il y a bien, ce que vous dites. Hein. Mais en même temps, ce que moi j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'est pas un modèle, c'est pas du tout un modèle, mais surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est une manière de... C'est-à-dire, la lecture catholique, hein, je vais prendre la lecture catholique, qui est très hostile à ma propre lecture. C'est que, bon, la thèse de Prévost, c'est tout à fait intéressant, qui montre que tout repose sur un mensonge dans l'utopie. Hein. Et c'est à ce mensonge qui doit permettre, ou cette apparence fallacieuse, qui doit permettre d'enclencher le mouvement de métamorphose de l'âme, hein, de la métanoïa spirituelle qui va détourner les hommes de la terre pour les détourner vers la cité céleste. Hein. Et parce que je pense, alors ça c'est intéressant parce que effectivement les trois quarts des gens qui lisent l'utopie, d'abord ils ne lisent que le livre 2. Mmh, mmh. Hein. Je pense que le livre 1 c'est un hors d'œuvre tout à fait inintéressant. Et donc il manque ce qu'est la théorie de l'écriture du livre 2, parce que c'est dans le livre 1 que Thomas More, mais défini d'un point de vue politique et pas du tout d'un point de vue spiritualiste religieux comme le croit Prévost, hein, il définit cette démarche propre à l'utopie qui est la voie oblique, c'est-à-dire on ne peut pas attaquer la malfaisance du monde, hein, de façon frontale, il faut employer des détours. Hein. Ça, c'est le propre de la philosophie qui connaît le théâtre du monde. Hein. Dans ce sens-là que More est très proche, d'ailleurs il a écrit une lettre sur la rhétorique, hein, peu de temps avant d'écrire l'utopie. Il est très proche de ce courant qui pense que la rhétorique peut être philosophique. Hein. Donc, c'est à partir de ce détour et de cette obliquité que l'on peut arriver à l'émancipation, à une terre de liberté, etc. Hein. Et avec une dimension, alors chez lui, parce qu'il y a par exemple une lettre très très belle de Thomas More où il raconte un rêve qu'il a fait et il était comme un héros avec une gerbe de blé dans les bras qui est donc le signe de l'abondance, de la comme s'il était une mère nourricière, etc. Donc il y a quelque chose de en même temps d'héroïque dans la position de More. Hein. Et ce que je crois que c'est ça qui est très important, c'est de montrer finalement que ça ne relève pas d'un spirituel religieux, hein, mais ça relève d'un spirituel politique. Hein. Je pense que c'est ça qui est très, très important. Mais bon, ça c'est ma lecture qui est contestée par les catholiques.
Mais si je peux juste rebondir, si on prend par exemple, parce qu'on parlait de rêve, la figure qu'on oppose souvent à Malcolm X, qui est celle de Martin Luther King, qui a prononcé ce fameux speech I have a dream, où là il parle de relations, on va dire, beaucoup plus saines entre les différents habitants des États-Unis. Là, on a l'impression que pour le coup, il a recours à ce rêve où il se passe plein de choses, où il y a des rivières d'amitié qui coulent, etc., mais qu'il cherche plutôt à le... Enfin, à l'ancrer ou à le, enfin, qui a une dimension politique immédiatement sensible sur le sol, c'est-à-dire en fait.
Ce que je pense, c'est que il y a toute une partie, parce que classiquement, on oppose Mort d'un côté, Machiavel de l'autre, et notamment le chapitre 15 du Prince où Machiavel critique les républiques imaginaires. Mais ça, je pense que ce n'est pas une bonne lecture, parce que ce qu'il y a aussi d'important chez Mort, c'est que c'est une réflexion critique sur le millénarisme. C'est-à-dire que je pense que pour lui, le millénarisme, s'il est justifié dans sa volonté de transformer le monde, ne l'est pas quant aux moyens qu'il emploie, parce que ça mène toujours au désastre. Donc son idée, c'est justement de reprendre ce rêve d'altérité que l'on trouve soit dans le christianisme, soit chez Platon, et d'essayer de faire entrer dans notre monde, mais par une voie qui n'est pas une voie frontale. Et ça, je crois que ça, c'est tout à fait intéressant, parce que finalement, ça n'est pas si loin. Enfin, je veux dire, le rapport critique de Mort au millénarisme n'est pas si loin du rapport critique de Machiavel à Savonarole. Dans ce sens-là, je pense que c'est l'utopie de Mort, c'est une invention rhétorique politique tout à fait extraordinaire. Et par exemple, si vous prenez Marx par rapport à Cabé, quand Cabé veut partir aux États-Unis, Marx, qui ne fait aucune illusion sur le côté un peu limité de Cabé, qui d'ailleurs a écrit son voyage en Icarie en prenant un peu chez Owen, en prenant un peu ce qu'il croyait être Platon, etc. Bon, Marx lui dit non, il ne faut pas partir, parce que quand même, par votre voyage en Icarie, votre propagande communiste, etc., vous êtes arrivé à faire rentrer des choses qui autrement ne seraient pas rentrées. Donc là, c'est tout à fait intéressant de voir que Marx reconnaît une certaine fonction à l'utopie. Cette lettre, c'est dans le livre de... Comment il s'appelle ? Il y a cette lettre de Marx à Cabé de 1847, je crois. C'est dans le livre de Louis Marin. La lettre. Et alors, c'est très intéressant, parce que j'ai vu que le camarade Gaucher avait, il n'y a pas longtemps, écrit un texte sur l'utopie, où en quelques coups de son esprit percutant, il écrit toute l'histoire de l'utopie. Et alors lui, il prend Machiavel, Mort, et puis un juriste. Et donc comme ça, la voie est toute tracée, l'utopie est morte, mais le droit est né. Et le droit qui prend la place de l'utopie. Voilà. Qui correspond d'ailleurs à l'évolution de Gaucher, puisque, comme vous savez, c'est devenu un constitutionnaliste averti. Un article qu'il a publié dans Le Débat, mais il y a assez longtemps.
Il reste 10 minutes.
Ça donne un rebond sur Thomas More, quand vous dites la question du détour, l'idée de faire entrer dans notre monde de manière non frontale quelque chose. Est-ce que il n'est pas intéressant, justement, comme vous l'avez dit, d'insister sur le livre 1.
Oui.
Et sur la dimension, dans le livre 1, de dialogue. Parce que la dimension de dialogue entre Thomas More, narrateur, et le voyageur imaginaire, crée un dialogue et une tension entre la possibilité d'un ailleurs radical et la question de l'amélioration qui rentrerait dans les institutions telles qu'elles existent. Avec une tension toujours, parce qu'elle n'est jamais résorbée, la tension, mais en même temps un dialogue, puisque la forme dialogique est utilisée. Et donc là, il y a aussi un rapport. Alors, le problème, c'est que son rapport à la politique vis-à-vis des institutions, c'est la figure du conseiller du prince, mais qui était sa propre expérience.
Oui.
Donc c'est pas la seule figure de la politique possible, mais il y avait l'idée d'une figure de la politique qui joue dans le rôle de l'amélioration, mais qui a nécessairement un rapport avec une sorte d'ailleurs radical, il me semble, dans le dialogue du livre 1.
Oui, non, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est... Alors, on peut pas lire, on ne comprend rien au livre 2 si on n'a pas lu le livre 1. Mais si on n'a pas lu la théorie de l'écriture qu'il y a dans le livre 1, ou ce que vous appelez le dialogue, ça je veux bien. Mais simplement, il faut aussi voir comment il appelle le voyageur philosophe. Hein. Il s'appelle Iclodé, qui veut dire le conteur de sornettes. Et Raphaël, c'est l'ange qui guérit la cécité. Donc, je veux dire, tout est surdéterminé hein, dans le texte de Mort. Mais là, vous avez raison, c'est que il ne s'agit pas d'un réformisme. Hein. Simplement, je pense que l'idée de Mort, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas... Il ne faut pas répéter les erreurs du millénarisme ou de mouvements comme celui de la guerre des paysans de Thomas Munzer, hein, parce que ça aboutit nécessairement à un échec total. Je veux dire, le détour ne veut pas dire une transaction sur les fins poursuivies.
Avant peut-être de conclure, j'en profite pour annoncer que on est en train de mettre en place une deuxième journée d'études sur l'utopie, donc comme celle qui a eu lieu en janvier, donc a priori ce sera pour septembre ou octobre prochain. On fera parvenir les informations en temps et en heure. Donc pour ceux qui ont envie de continuer à discuter de ces sujets-là, il y aura un espace pour. Et pour les conférences de l'ED,
il y aura au mois de juin, je n'ai pas encore la date, une troisième conférence qui sera faite par Monique Choumillé-Gendron à propos de son livre qui vient de paraître, qui s'appelle De la guerre à la communauté universelle. Mais je vous communiquerai le jour et la date parce que c'est pas encore fixé.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.